Chères auditrices, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Que faut-il faire pour avoir des routes, des ouvrages d'intérêt public qui durent plus longtemps? Nous en parlons avec le chef des travaux Alpha Memidra et Bango. Il est chargé des relations publiques de la Corporation des ingénieurs BTP. Bonjour, monsieur le chef des travaux.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081 890 63 94. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Par SMS, envoyez-nous vos questions, suggestions et commentaires au numéro 081 711 5001. C'est aussi possible de nous envoyer vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Marcel Gomo coordonne et réalise ce numéro. Et Jean-Noël Mokondo est à la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ce numéro d'Okapi Service.
Au 42 502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42 502. 42 502. Une fois sur le 42 502, vous avez le choix entre différents programmes. Différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et banane doublée au 323. Le 42 502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502. 42 502. Uniquement pour les abonnés Vodacom.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. À Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC, l'espérance de vie des routes et autres ouvrages d'intérêt communautaire tels que les ponts, les stades, qui sont construites, sont relativement bas selon plusieurs observateurs. Pour certains, c'est le comportement des usagers de ces ouvrages qui entraîne la dégradation accélérée de certaines chaussées ouvrages d'intérêt communautaire à Kinshasa et ailleurs. Et pour d'autres, il y a une certaine faiblesse ou légèreté dans les services publics censés faire le contrôle et la maintenance des ouvrages publics, ponts, routes, rails et autres. Et pourtant, dans certaines communes de la ville de Kinshasa, par exemple, comme Lemba, Matete et Bandal, on retrouve encore des ruelles bitumées qui datent des années 50. Que faut-il faire pour avoir des ouvrages d'intérêt public, routes, ponts et rails qui durent plus longtemps? Nous en parlons avec le chef des travaux Alpha Memidra. Il est chargé des relations publiques à la Corporation des ingénieurs BTP. Ingénieur, vous partagez ces constats que selon lesquels les ouvrages qui sont construits de notre époque, au fait, ne durent pas trop longtemps comparativement aux ouvrages d'intérêt public érigés autour des années 50 et 60.
Oui, bien sûr, le constat est largement partagé par la population, par les professionnels des domaines de la construction, et même nos élèves, étudiants aussi, ils posent des problèmes, ils posent des questions. Donc le constat est vraiment largement partagé.
Commençons par les concepts. Qu'est-ce qu'on entend par les ouvrages d'intérêt public dans le domaine des BTP?
Bien, simplement dit, les ouvrages d'intérêt public, ce sont les ouvrages qui sont construits pour rendre service à la communauté, donc faciliter la vie dans la communauté, dans tout le monde. Dans ces groupes-là, nous trouvons essentiellement, il y a les travaux publics, il y a les bâtiments qui sont plus d'usage privé, il y a aussi des bâtiments qui sont d'utilisation publique. Mais très souvent, quand on parle des travaux publics et des usages d'intérêt public, on voit les ouvrages, les infrastructures qui servent au transport, les ports, les routes, les rails, les voies ferrées, et voilà, et ainsi de suite. Donc les aéroports, ce sont des ouvrages d'intérêt public qui sont construits pour servir le plus grand nombre de toute la communauté.
Du point de vue de principe, monsieur le chef des travaux, est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'espérance de vie de ces ouvrages d'intérêt public, par exemple? Est-ce qu'il y a des normes préétablies dans ces créneaux-là?
Bien, les ouvrages ont des durées de vie variables selon leurs spécificités, leur nature, leur utilisation, selon les milieux dans lesquels ils sont réalisés. Il y a des ouvrages sont variables. Donc, lorsqu'on conçoit des ouvrages, on définit déjà d'avance les durées de vie de chaque ouvrage. Par exemple, les routes en béton, ils peuvent atteindre facilement 50 ans, 30 à 50 ans, voire plus, lorsqu'ils sont bien entretenus. Mmh. Les routes en asphalte, en bitume, comme on appelle ici à Kinshasa, peuvent atteindre 15 ans, ainsi de suite. Donc, chaque ouvrage a un durée de vie, donc, dans les études des ouvrages, on prend en compte un durée de vie pour qu'il puisse servir et que les dépenses faites par l'autorité publique puissent être amorties pour le bien de la communauté. Donc, ils sont appelés à durer longtemps.
C'est sur base de ces principes qu'on parle de la responsabilité des Sénats de mettre des ouvrages qui sont érigés, d'intérêt public notamment.
Bon, la responsabilité des Sénats, c'est une responsabilité de l'entrepreneur, de celui qui a réalisé les travaux pour impliquer suivi. Donc, l'ouvrage doit bien se comporter pendant au moins cette durée de 10 ans. Donc, on doit observer les ouvrages importants qui ont absorbé l'argent du trésor public, l'argent des contribuables, mais doivent servir. C'est pourquoi il y a cette responsabilité. On tient aux exécutants, aux entreprises responsables pour que ces ouvrages-là puissent rendre au moins service pendant 10 ans. C'est ça la responsabilité de CEDAL et elle intervient après que l'ouvrage soit livré à l'autorité publique pour le mettre en service et maintenant on peut compter la garantie de CEDAL. Ça peut impliquer la confiscation, évidemment, la création des fonds de garantie. Ça peut confisquer les retenues dans les factures de l'entreprise pour constituer un fonds de garantie décennale. Pendant cette période-là, les ouvrages peuvent être réparés sur les frais de l'entrepreneur ou en fonction de la garantie qu'il a déposée sur cette responsabilité-là.
Monsieur le chef de travaux, maintenant, c'est que l'on constate est que vous avez parlé pour des routes, par exemple, en bitume, c'est dans les 10 à 15 ans, mais c'est que l'on constate est que ces ouvrages, une fois livrés, ne traversent pas cet espace temporel. C'est dû à quoi?
Bon, la question de la destruction ou du vieillissement précoce de nos ouvrages a été due à plusieurs causes. Permettez-moi de parler succinctement de l'ensemble de ces concepts-là. Mmh. D'abord, un ouvrage, avant d'être réalisé, construit, est étudié. Il est étudié. Et il est construit, ensuite il sera utilisé. Mmh. Pendant les études, les ingénieurs qui étudient ces ouvrages-là doivent prendre en compte, par exemple, les conditions réelles d'utilisation de cet ouvrage dans le futur. Par exemple, c'est une route qui sera comme la route de Matad qui prend le poids lourd, est calculée de manière à résister à ce poids lourd pendant toute la durée de vie. Une route du quartier, une route secondaire pour les véhicules de ménage est calculée en fonction de cela. Donc, il faut prendre en compte les conditions réelles d'usage que nous, techniciens, appelons les sollicitations réelles. Et cela permet à ce qu'on choisisse la structure de la route, pour prendre cet exemple, approprié qui convient. Et puis, les matériaux à utiliser pour que la route répond à l'usage qui sera fait. On ne peut pas utiliser les mêmes matériaux pour la route de Madrid avec une route du quartier. Ça, c'est un des éléments. Et d'autres éléments, c'est les conditions de l'environnement. Chaque ouvrage est construit dans un milieu. Il faut savoir que ce milieu-là, il est marécagé, il est hostile, l'ouvrage, ainsi de suite. On tient ce compte-là. Donc, au niveau de l'étude des ouvrages, on prévoit déjà ce que l'ouvrage peut subir comme contrainte de l'environnement, comme les contraintes d'utilisation à l'avance pour que ils puissent résister. Ça, c'est au niveau des études. Je parle de manière générale, il y avait d'autres aspects. Mmh. J'ai simplifié la présentation.
D'accord.
Et il y a l'aspect construction des ouvrages. L'ouvrage étudié est mis sur plan et il va être réalisé. On va faire les marchés publics, l'adjudication. On engage des entreprises qui vont exécuter ces travaux. Et pendant qu'ils exécutent là, si l'entreprise n'utilise pas les bonnes techniques de construction, il prédispose déjà l'ouvrage à vieillir avant. Donc, il faut utiliser des bonnes techniques de construction. Il y a aussi les matériaux. Il faut utiliser des matériaux qui conviennent. Les matériaux qui ont été prévus doivent être celles qui sont utilisées. Et pour garantir cela, l'autorité publique a prévu le contrôle des réalisations. Il y a des entreprises spécialisées pour le contrôle d'exécution des ouvrages qui doivent veiller, est-ce qu'ils ont respecté les dimensions de décidées, est-ce qu'ils ont respecté les qualités des matériaux respectées, et ainsi de suite. Le contrôle est très très important pour anticiper la longévité des ouvrages. Et enfin, au niveau de l'usage, il y a beaucoup de mauvais usages qui ont fait de nos ouvrages. Les ouvrages deviennent des routes qui deviennent des garages, des routes qui deviennent les liés où on exécute d'autres choses que la circulation. Le manque d'entretien, une autre chose, et ça c'est endémique pour nous, le manque d'entretien régulier. Nous attendons de voir des déformations visibles ou bien des problèmes visibles pour commencer à intervenir, alors que dans chaque ouvrage, il y a un cycle d'entretien qui peut être prévu à l'avance, qui à telle période on peut faire, et enfin je peux clôturer par les conditions environnementales dans les milieux où l'ouvrage se trouve. Si l'environnement connaît des problèmes, ça va affecter nécessairement l'ouvrage. Voilà un peu l'essentiel des aspects au niveau des études, de la construction, de l'utilisation. J'ai souligné la prise en compte des conditions réelles d'usage des matériaux, j'ai souligné la bonne usage, les bonnes exécutions, et j'ai souligné dont le contrôle, et j'ai souligné l'entretien. Voilà un peu des aspects.
Et dites-nous, monsieur le chef de travaux, l'inspection ou le contrôle doit se faire en amont ou en aval de l'exécution de travaux?
Ça se fait à plusieurs niveaux. Déjà, par exemple, au niveau des études, les études sont effectuées par une structure qualifiée et contre-expertisées par une autre structure qualifiée. Ça permet de garantir que les propositions de l'ouvrage sont correctes. Par exemple, il y a même des interventions des laboratoires pour certifier de la qualité des matériaux choisis. Et ainsi de suite. Il y a aussi des normes de construction qui sont prises en compte lors des études qui sont pour garantir la durée de vie de ces ouvrages-là. Ça, c'est déjà au niveau des études. Au niveau de la construction, le contrôle se fait pour voir si on exécute les choses bien, si les procédures sont respectées et si les dimensions sont respectées, ainsi de suite. Donc, le contrôle se fait aussi pendant l'exécution et après. Quand l'ouvrage est fini, on va voir est-ce que l'ouvrage est conforme à ce qui était prévu, et si l'ouvrage est conforme, on l'accepte, et puis on fait le suivi pendant une certaine période définie par les cahiers de charges pour voir si l'ouvrage se comporte toujours bien. Donc le contrôle, c'est à tout moment, au début, pendant la réalisation, et pendant la mise en service aussi.
Et le comportement des usagers de la route, monsieur le chef de travaux, a aussi une large part de responsabilité dans la dégradation des ouvrages d'intérêt public dans les BTP, monsieur le chef de travaux.
Exactement, exactement, parce que, par exemple, prenez quelqu'un, une route qu'on a fait récemment, et si cette route-là, quelqu'un qui veut faire son moulin, il veut creuser, il casse l'asphalte pour mettre son fil d'électrique qu'il a tiré illégalement. Pour que la raison que les véhicules passent là-bas, ils vont continuer à grandir cette cassure-là, et la route peut se détruire à cet endroit. Mmh. Et bon, nous les techniciens, on se demande pourquoi les autorités publiques avec qui on utilise le même acte routier, pour rester dans cet exemple de route, ils ne voient pas certains abus au début pour intervenir plus tôt, sanctionner ceux qui font ces abus-là, Il faudrait là aussi qu'on y réfléchisse, qu'on approfondisse cet aspect. Donc, il y a les mauvaises utilisations. Par exemple, une route secondaire du quartier, vous amenez un conteneur.
Un véhicule poids lourd.
Qui ne peut pas circuler dans ces routes-là, vous l'abîmez précocement. Et ainsi de suite. Donc,
voilà. Un véhicule qui tombe en panne, on le répare sur place, sur la chaussée.
Et il y a des lubrifiants, l'essence peut tomber, l'essence affaiblit l'asphalte. Il y a des huiles qui peuvent tomber qui ne sont pas appropriées. Raison pour laquelle il faut veiller ça. Vous voyez, par exemple, dans les aéroports, dans les pistes d'avion, on met du béton, on ne met pas l'asphalte. Mais l'avion peut rouler dans une piste en asphalte, mais là où les avions stationnent, on ne met pas de l'asphalte. C'est à cause de cette destruction qui peut être faite par des carburants, des lubrifiants. Alors, lorsqu'on fait la mécanique sur la route, imaginez les conséquences.
Monsieur le chef des travaux, dans cette émission, nous donnons également la parole à la population. Donc là, on va aller au standard. Hein, on va aller au standard pour donner la parole à la première vague des auditeurs qui appellent. Que faut-il faire pour avoir des routes qui durent plus longtemps, des ouvrages d'intérêt public qui durent plus longtemps? Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Appelez-nous. Nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous envoyer vos commentaires au courriel dénommé service@radiocapi.net et sur la page Facebook du magazine Okapi Service.
Le 42-502, c'est Radio Capi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42-502. 42-502. Une fois sur le 42-502, vous avez le choix entre différents programmes. Différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banane Doublée au 323. Le 42-502, c'est Radio Capi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42-502. 42-502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Nous commençons par donner la parole à Monsieur Augustin qui nous appelle depuis Demba. Nous sommes là au Kasaï Central. Monsieur Augustin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Dites-nous quels sont les constats qui se dégagent dans ces coins du pays concernant les ouvrages d'intérêt public, routes et autres ouvrages. Est-ce que une fois érigé, ça traverse le temps ou ça se dégrade un peu plus vite?
En fait, on comprend qu'il y a les problèmes de manque de suivi concernant les autorités provinciales que nous avons ici. Je dois évoquer en ce cas les problèmes de la ville de Kananga. C'est dans notre province du quartier central. Il y a deux sociétés qui se sont engagées pour le soldage. Nous avons les gens de Safromet et les Grecs. Alors, quand on comprend qu'ils ont débuté leurs travaux, et les gouverneurs et les autres personnes, ils n'interviennent pas souvent. Alors, le grand problème doit se baser sur le problème de suivi. En plus, la société civile aussi doit se baser. C'est comme encore les problèmes de quoi? La cité de Demba. C'est une cité qui se situe à 60 quelques kilomètres avec la ville de Kanan. Mais toutes les routes qui nous mènent vers là sont vraiment... Ah, ils ne sont pas en bon état. Alors, il a fallu que tout passe par le problème de suivi. C'est ça mon point de vue que je peux évoquer en ce cas. Je suis en grève depuis la cité de Demba au Kasaï Central. Merci.
Merci beaucoup, M. Augustin. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Demba au Kasaï Central que vous intervenez. Retournons à Kinshasa pour donner la parole à M. Laurent Mignon, à qui nous disons bonjour.
Bonjour, Marcel Nouboubala. Merci pour cette opportunité. Je pense que pour retenir nos routes dans un bon état, il faudrait qu'il y ait un bon contrôle. C'est comme à Kananga, parce que moi je suis de Kananga, il y avait la société grecque. Non, pendant son travail. Mais vous vous rendez compte que ces gens ici étaient venus pour se jouer des Kanangais ou ils étaient venus pour faire quoi? On se rend compte qu'à un certain moment, les routes n'étaient pas durables, les routes ne consistaient même pas. Et je me pose la question, est-ce que nous avons les autorités dans cette province? C'est comme ici à Kinshasa. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée que parmi les villes de la RDC, la ville où il n'y a pas la culture, où il n'y a pas l'éducation, les gens sont vraiment mal éduqués, c'est la ville de Kinshasa.
Vous voyez, il y a beaucoup de caniveaux ici. Les gens jettent les bouteilles d'eau. Mais comment nous pouvons garder nos eaux dans un bon état? Mais aussi l'impuissance du contrôle de nos services à Kinshasa. Ici à Kinshasa, je ne peux pas vous répondre, vous comptez ici. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement congolais, lorsqu'il y a un projet de la réhabilitation d'une route, il faut que la structure qui est censée contrôler cette route-là, il faut qu'il fasse son travail normalement. On peut nous avoir, dans les cas de pédestre, nous avons le BCCO. Oui, je salue ce qu'il fait. Mais dans les cas de la route, vraiment, il y a du n'importe quoi. C'est comme à Kinshasa, où les gens vraiment ont une culture vraiment malsaine, bizarre. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci beaucoup, monsieur Laurent Mignon. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Monsieur le chef de Travaux Alpha, comment répondez-vous à nos deux auditeurs, hein, Augustin de Demba, qui dit qu'il y a un sérieux problème de suivi des ouvrages qui d'intérêt public, hein, routes et autres, au niveau de services qui sont censés contrôler, au fait, la qualité et puis la sauvegarde de ces ouvrages.
Effectivement, c'est un constat un peu partagé. Peut-être que les auditeurs pourront multiplier les exemples. Mais comme je le disais, le contrôle est crucial. Et celui qui porte la responsabilité du contrôle de la réalisation de voyage, c'est l'autorité publique. Parce que c'est lui qui finance tout ce qui est ouvrage, infrastructure d'intérêt public. Donc, l'argent du contribuable doit être sécurisé. Un, en sélectionnant des entreprises qui sont compétentes, tant pour les études, choisir des bureaux d'études qui sont compétents, et pour les exécutions, choisir les entreprises qui sont compétentes, mais non seulement, mais aussi ceux qui ont une bonne réputation. Tous ces critères sont prévus dans les conditions de marché. Mmh. On doit avoir les réalisations antérieures, on doit avoir les capacités techniques de l'entreprise avec ce qu'il a comme équipement, et comment les contrats antérieurs ont été terminés. Quelqu'un qui n'a pas terminé un premier projet, vous lui ajoutez un autre projet. Donc on se demande, qu'est-ce qui se passe, cela ne devrait pas être
c'est passé
fait.
Comme ça.
Oui. Et de deux, il faut que nos organismes de contrôle puissent avoir la liberté. Nous savons qu'on a des collègues qui sont des ingénieurs, ingénieurs BTP, ingénieurs civils et autres, qui sont compétents, qui peuvent faire ce travail de contrôle, qui sont dans les projets. Mais pourquoi il y a toujours des problèmes? Peut-être qu'ils n'ont pas toute la liberté d'action vis-à-vis des entrepreneurs qui, souvent, leur présentent leur statut de privilégiés et des relations qu'ils ont avec des personnes particulières pour ne pas respecter les principes des travaux. Ça aussi, c'est un sérieux problème sur lequel l'autorité publique doit veiller.
Qui c'est l'auditeur de Kinshasa, Laurent Mignon, il dit aussi, il ajoute, hein, il dit, la population a aussi une très grande part de responsabilité dans ce que nous connaissons concernant les domaines des ouvrages d'intérêt public. À Kinshasa, par exemple, Kinshasa avait un très bon réseau des canalisations d'eau et puis des routes bitumeuses. Malheureusement, c'est la population qui entraîne également la dégradation de ces ouvrages.
Oui, évidemment, nous étions en train de mentionner l'exemple d'un mécanicien avant cela. Donc, c'est ça aussi, il y a le mécanicien, le déchargement des choses sur les voies publiques, sur les accotements qui font partie intégrante des routes, l'exemple que nous avions retenu au départ, que nous avions commencé à dire. Donc, le comportement de la population est très important. Les mécaniciens qui traînent des métaux pour dégrader ou corroder la route. Donc, il y a vraiment cette responsabilité-là. Quand vous jetez l'eau sur la route, une route bitumée, il y a un petit trou, on y met de l'eau, c'est pour l'abîmer. On va décoller les matériaux, on va abîmer la route.
Des caniveaux remplis de sable, et l'eau ne sait où aller, et l'autre se réfugie sur les lits de la chaussée.
Dans les caniveaux, l'eau ne s'écoulera plus, l'eau va commencer à stagner et à détruire, parce que l'eau est l'ennemi numéro un des ouvrages de construction, et il va stagner, il va détruire de précocement les ouvrages. Donc, il y a un problème d'éducation. Je pense que on investit un peu dans la dans, non seulement dans la sensibilisation en termes de respect des ouvragers, de cette histoire digitale, des immondices dans les infrastructures, et puis sanctionner, ça permettrait quand même d'économiser l'argent dans les réparations.
Nous retournons au standard, monsieur le chef des travaux Alpha. Il y a un auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bounia. Il s'appelle Jonathan. Jonathan, bonjour.
Bonjour.
Oui, que faut-il faire pour avoir des ouvrages d'intérêt public, ponts, routes, qui durent plus longtemps? Avez-vous un commentaire par rapport à ces sujets?
Oui, je reviens tout juste sur ce sujet. Je suis Camille Agathe, j'interviens depuis la ville de Bounia, Université Shalom de Bounia. Alors, préalablement, j'ai dit ceci. Notre population n'est pas instruite par rapport à cette matière d'infrastructures et d'ouvrages publics. Alors, je suis en train de parler, par exemple, concernant les infrastructures routières. Je peux présenter un témoignage par rapport à une situation qui se laisse voir ici chez moi, par exemple, en matière de gestion des infrastructures routières. Alors, il y a à peine une société venait de nous mettre asphalter des routes et mettre des goudrons. Mais à peine finir les travaux, et après quelques 2 ou 3 mois, on voit directement qu'après la pluie, une fois que la pluie arrive, directement il y a des nids de poules. Alors on ne comprend pas si est-ce que cela revient aussi à des sociétés qui nous aident à arranger nos routes, et ou soit ça revient à nous. Alors c'est une question qui est tout à fait
Malheureusement, Jonathan n'a pas fini son argumentaire. La liaison s'est coupée avec Jonathan. Jonathan, vous êtes en ligne, hein? Malheureusement, Jonathan n'est plus en ligne. Monsieur le chef des travaux, comment répondez-vous à la préoccupation de Jonathan qui dit à Bounia, il a évoqué le cas d'une route qui a été inaugurée au bout de 3-4 mois, elle s'est dégradée complètement. Est-ce que le problème c'est au niveau de la qualité des travaux qui ont été faits, ou c'est par rapport à la zone, parce que déjà dans cette zone-là, on est dans la zone équatoriale où il pleut abondamment. Est-ce que ce sont des normes qui n'ont pas été respectées ou quoi?
Bon, nous avions mentionné ici l'ensemble des éléments qui peuvent être pris en compte pour garantir une durabilité de l'ouvrage. Mais le problème peut se trouver au niveau des études, la construction et l'utilisation. Mais avoir un cas aussi flagrant que cela, nous savons que les études, c'est un peu normé, c'est un peu standard. Il y a des normes, des textes. Et c'est généralement presque le même structure habituée à faire ces mêmes travaux qui les font pour le compte de l'autorité publique. Donc, si des cas comme ça arrivent, on a la facilité de soupçonner la mise en œuvre. C'est-à-dire que la mise en œuvre n'a pas été peut-être convenablement, donc convenable quoi. On peut avoir peut-être, on n'a pas peut-être respecté les dimensions des couches des chaussées qu'on a demandé aux les épaisseurs, on n'a peut-être pas respecté les qualités des matériaux, donc voilà un peu l'importance du contrôle dans ce genre de choses. Donc on peut facilement soupçonner la mise en œuvre dans des cas comme ça, parce que c'est récent.
Oui, monsieur le chef de travaux, qu'est-ce que vous dites? Il y a des sources qui disent que des entreprises qui sont trop regardantes, trop rigoureuses, on leur donne pas le marché, parce que bon, si vous ne sous-estimez pas les coûts, bon, vous n'allez pas avoir le marché. Pour avoir le marché, bon, vous acceptez, mais vous faites quand même une route, hein, peu importe la qualité. Ça, c'est une réalité.
Ça c'est vraiment le... Je dirais quelque chose qui tue notre industrie de la construction au pays. Et évidemment, la corruption, c'est un problème. Le clientélisme, c'est un sérieux problème. Et ce sont des choses qui ne peuvent pas développer un pays. Donc, si nous voulons avoir des ouvrages et consorts, il faut confier les travaux aux entreprises qui ont du personnel qualifié, avec un équipement, qui ont des réalisations à succès, et qui respectent les normes. Ça, c'est un problème courant, dit et peut-être rencontré par nos constructeurs. Nous ne pouvons pas indexer qui que ce soit, mais la vérité est qu'il faudrait aussi mettre de côté toutes les personnes qui sont jugées responsables de ces pratiques dégradantes qui ont tendance à faire perdre l'argent du public dans les choses. Quand vous confiez un travail à quelqu'un qui n'est pas compétent, vous attendez à des résultats mauvais.
Oui. Ouais. Merci beaucoup, monsieur le chef de travaux Alpha Memidra et Bango. Vous êtes chargé des relations publiques de la Corporation des ingénieurs BTP. Merci d'avoir été avec nous dans cette première tranche d'Okapi Service. À la prochaine occasion. Au revoir.
C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation.
Le 42 502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42 502. 42 502. Une fois sur le 42 502, vous avez le choix entre différents programmes. Différents programmes en tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et banane doublée au 323. Le 42 502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502. 42 502. Uniquement pour les abonnés Vodacom.
Que faut-il faire pour avoir des routes qui durent plus longtemps, des ouvrages d'intérêt public qui durent plus longtemps? C'est le thème que nous abordons dans cette première partie d'Okapi Service. Et dans cette première partie, donc, nous donnons également la parole à Monsieur Apollinaire, qui est architecte. Et il va également donner son point de vue par rapport à cette situation, parce que ces ouvrages également, au-delà de l'espérance de vie, parfois il y a des ouvrages qui ne sont pas assez présentables. Quels sont les facteurs qui sont à la base de cette réalité? Monsieur Apollinaire Kitenge, bonjour. Monsieur Apollinaire, est-ce que vous nous entendez?
Je vous entends.
Oui. Est-ce que vous partagez ces constats faits avec les auditeurs concernant les ouvrages d'intérêt public ici en RDC qui ne durent pas plus longtemps? Il y a beaucoup de bruit ambiant là où vous êtes, M. Apollinaire.
Certains éléments plus importants.
Mmh. Allez-y.
Je ne pourrais que ajouter le mien dans le même sens, aborder dans le même sens. Vous savez, dans la conception d'abord des ouvrages, comme le professeur l'a dit, il y a aussi un problème au niveau de la conception. Vous savez, quand on fait les études de certains ouvrages d'art, il faudra tenir compte de tous les paramètres y afférents à la climatologie, à la quantité, par exemple, les évacuations d'eau. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte. Voyez-vous? En dehors de tout ça, il y a aussi la mise en œuvre pendant le temps qu'on est en train de faire l'exécution de ces ouvrages. Il se fait aussi parfois les mélanges des agrégats, la qualité des matériaux qu'on utilise, fait en sorte que avec la pluviométrie, ça n'arrive pas à durer longtemps. Vous voyez? Dans le temps, on faisait le tout à l'égout pour les sanitaires, pour certains autres. Prenons l'exemple de la commune de la Gombe. Il y a aussi certaines communes pilotes qu'on avait fait Matete, Bandal. Vous trouverez qu'il y a des bouches d'égout qui existent. Ça prouve que il y avait certaines études qui étaient faites en amont. Et il ne faut pas oublier aussi certaines entreprises qui sont attitrées à faire ces travaux-là. Des fois, elles ne sont pas chapeautées par des professionnels dans les domaines. Ils sont chapeautés par des commerçants qui ont le goût du luxe. Voyez-vous? Et ces gens-là ont besoin de faire beaucoup plus de bénéfices que de voir les travaux qui doivent être faits, les travaux, comment est-ce qu'ils doivent être faits. Il a besoin d'une bonne comptabilité, d'avoir qu'est-ce qui entre dans la banque, dans son compte. Mais sans pour autant tenir compte de la durée de vie de ces ouvrages. Mais il faudra aussi ajouter les contrôles qui doivent être faits avec beaucoup de rigueur. Vous savez, ce qui tue aussi notre pays, c'est ça, quand on confie des travaux à certaines agences ou bien à certaines entreprises, le suivi n'est pas de rigueur. Peut-être on peut voir dans une certaine mesure. Vous êtes sans ignorer aussi les commissions qui sont restituées ou bien qui sont retournées à certains, à ceux qui ont octroyé les marchés.
Oui, ça c'est une réalité, oui, exactement.
Ouais. Alors, quand un ouvrage devait coûter 500 000, 5 millions de francs congolais, et vous rétrocédez déjà 1 million. Vous voyez que vous êtes déjà dans le 20% du montant
oui.
que vous avez expliqué dans le ce qui fait que l'entrepreneur ne fera plus son travail dans les normes. Voyez-vous?
Mm.
Et il y a aussi ce qu'on appelle le suivi. Vous avez fait un ouvrage d'art à Bongandanga, où le ciment peut arriver après 7 mois où ça vous coûte $60 les sacs. Ou bien au Maniema là-bas à Kindu, ou bien à Kabambare. Voyez-vous?
Mm.
Alors, comment voulez-vous que l'ouvrage d'art que vous avez calculé au niveau de Kinshasa, au lieu de le calculer au niveau de Kabambare, en tenant compte des moyens de
transport,
des coûts de revient, des coûts de transport,
mm.
et vous avez fait le prix
et même des intempéries, parce qu'il pleut plus, oui.
Mm. Il pleut abondamment. Vous avez fait le prix au mètre cube du béton à Kinshasa, peut-être béton non armé, à $400. Or, à Kabambare, ça va vous coûter $800. Alors, l'entreprise qui a accepté à faire ces travaux-là, donc, il ne va pas réaliser l'ouvrage en bonne et due forme. Et le résultat ne sera pas escompté. C'est comme les ouvrages d'art de pluie ici. Il y a je reviens encore dans le début en disant qu'il y a aussi les études qui doivent être faites en fonction du changement climatique, en fonction de la pluviométrie, surtout pour les ouvrages d'art. Même les chaussées également. C'est quel type de chaussées qu'on peut faire sur le terrain qui sont, qui ont beaucoup plus de couches, les remontées capillaires assez assez fréquentes. Vous voyez?
Mm.
Ce qui fait que on n'aura pas à avoir des chaussées ou bien des ouvrages d'art qui perdureraient assez longtemps.
Monsieur voilà, Apollinaire, oui, mais, oui, je vous garde en ligne, hein, nous vous gardons en ligne, le temps de donner la parole aux auditeurs, hein. Il y a un auditeur qui attendait depuis longtemps, il est à Bounia, il s'appelle Emmanuel, hein. Emmanuel, bonjour.
Bon.
Monsieur Emmanuel, vous nous écoutez? Malheureusement, il est loin de son téléphone, il y a que le bruit ambiant.
Je suis là, je vous écoute.
Allez-y, à vous la parole, allez-y.
Oui, forcément, moi je pense que c'est une bonne thématique. Mais la question, moi je pense que c'est partager l'État congolais, l'entreprise également, la population. Je prends par exemple l'exemple ici de Bouna. Vous allez voir, l'entreprise peut bien faire son travail, il peut inflater donc la route, mais vous allez constater, vous m'entendez?
Oui, je vous écoute, nous vous écoutons très bien, 5 sur 5, allez-y.
Oui. Je disais ceci, la responsabilité donc est partagée entre une entreprise, les services habilités de l'État pour faire les suivis, soit les contrôles, mais également la population. Je prends l'exemple typique de la ville de Bounia. Vous allez voir, il y a une bonne route bien entretenue par une entreprise X ou Y, mais la population jette les immondices de saleté sur la chaussée dans des caniveaux, au lieu de jeter ça, ou de garder à la maison, aller jeter dans des poubelles publiques. Vous voyez cette histoire, et ça détruit donc nos différentes routes qui étaient bien entretenues pourtant. Ça coûte beaucoup d'argent. Pour moi, la responsabilité est beaucoup plus au sein de la population congolaise.
Merci beaucoup, M. Emmanuel, de votre constat et interpellation. M. Apollinaire Kitenge, comment répondez-vous à Emmanuel de Bounia?
Bon, je crois que Emmanuel fait un constat. Je crois que c'est de ses visus. Mais il faudra aller en profondeur. Est-ce que l'entreprise qui a exécuté ces travaux-là a été contrôlée? Est-ce qu'à la fin, il y a eu un PV qui a sanctionné que cette route-là est en bon état? Pas du tout. Bon, la responsabilité de la population vient en aval.
En aval.
Hein, vient en aval, mmh. Vient en aval, mais en amont, il y a beaucoup à dire, M. Papi. Je crois que c'est là où on dit l'État congolais a aussi beaucoup de responsabilités. Vous savez que ces chaussées aussi, comme je dis, sont surfacturées. Vous savez, nous entendons toujours qu'on dit qu'un kilomètre de route est égal à $1 million.
Mm.
On ne nous a jamais dit, on ne vous dira pas que cette route-là, elle est de quelle largeur, la couche de roulement ou bien la couche de base de la couche de fondation est de quelle épaisseur,
mm.
quels sont les ouvrages qui accompagnent cette route-là, l'emprise est comment, mais on vous donne seulement un montant de $1 million. Est-ce que c'est une route en terre battue ou bien c'est une route avec le pavage de pierre, ou bien c'est une route à terre stabilisée. Tout ça, ce sont des éléments qui entrent en jeu pour savoir qu'un tel ouvrage d'art va coûter autant.
Oui.
Vous êtes sans ignorer également il y a aussi les élus qui font de la publicité. Quand on va faire une route, ils passent là-dessus, c'est comme si celui qui a mis son argent là sur la route, sans pour autant savoir que cette route-là a toutes les capacités ou bien toutes les exigences nécessaires pour une chaussée ou bien pour un ouvrage d'art. Voyez-vous?
Oui.
Et quand ils passent, on montre les images à la télé, c'est fini. Personne ne peut suivre.
Oui.
Hein? Et ces gens-là n'ont pas terminé selon le délai, selon les exigences climatologiques.
Oui, et la population aussi. Oui, la population, elle est profane, elle ne connaît pas aussi. Elle est emballée
elle
parce qu'elle a
aussi.
La chaussée bitumée, c'est tout. Oui, là.
Et cette population-là, c'est quoi? Parce que vous savez, notre pays, après l'indépendance, 60 ans après, les grands travaux ou bien les travaux des ouvrages d'art n'ont pas suivi l'évolution
démographique.
Des villes, ou bien des entités,
oui,
des démographies.
Exactement.
Je vous donne un exemple à Bolomba. Vous allez à Bolomba, vous ne trouverez même pas un centimètre carré de chaussée bituminée. Voyez-vous? Vous ne verrez même pas un caniveau. Un monsieur qui est là-bas, soit, il trouve que le caniveau, c'est la poubelle. Parce qu'on n'a pas été habitué à avoir des ouvrages tout au long de notre marche avec l'État, de manière à ce que les gens soient aussi éduqués.
Oui.
Vous savez, avec les eaux de Régal ici à Kinshasa, et tout le monde se conforme maintenant à l'habitude. Voyez-vous?
Oui.
Avec ces usines maintenant qui produisent des produits en plastique manufacturés, et tout ça, ça entre en jeu. Donc, il faudra aussi tenir compte de ça. La population doit être éduquée. Et il faut tenir compte aussi de l'exode réel et de la mentalité aussi de la population.
Nous retournons au standard, monsieur Apollinaire. Hein, le temps, on vous garde en ligne. Qu'on donne d'abord la parole aux auditeurs hein, qui appellent de partout. Nous retournons à Bounia pour donner la parole à Justin. Justin Calavia, bonjour.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour aussi à notre invité.
On n'a plus assez de temps, allez-y, on vous écoute.
Merci, monsieur Tati, en tout cas, de m'avoir associé dans cette très bonne émission. En fait, la population congolaise est abandonnée, en tout cas, à ce triste sort par les dirigeants. Car chacun cherche à s'enrichir. Parce qu'au Congo, on entre à la politique en babouche, monsieur Tati, mais on parle en titre. Et pourtant, que le paisible citoyen paye des impôts et taxes. Le développement d'un pays, monsieur Tati, se voit par des routes et l'électricité. Mais nous, au Congo, nous sommes en tout cas au 20e siècle, monsieur Tati. Mais, en une route de la santé, nous avons la RN27 qui était Bounia, allée à Maradi, monsieur Tati. C'est comme si vous allez dans une brousse, là où il n'y a même pas les, là où il n'y a même pas les temps. Vous quittez la RN27, vous partez RN4. Bounia Kisangani, on n'en parle même pas. Prenez la RN2, vous quittez Boukou, vous mitez, vous partez vers le Hombo là-bas. Monsieur Tati, c'est comme un pays ici, nous n'avons même pas de parlementaires. Vous quittez Goma, vous partez vers Walikale là. Nous n'avons que partout ce qui est étendu, monsieur Tati. Nous n'avons même pas, ce n'est même pas de route là où on ne paye pas des impôts. Est-ce que nos dirigeants, notre argent, la plupart des populations, cet argent vaut où? Est-ce que c'est seulement aux parlementaires de recevoir les 21 millions de dollars, alors que la vie de la population est où? Alors, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à parler à ces débats ici, M. Tassé. C'est peut-être lorsque nous aurons à 2000, peut-être nos enfants, qui auront peut-être la chance d'avoir des routes. Merci ma contribution et bonne journée, monsieur.
Merci beaucoup, monsieur Justin Calabia. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia que vous nous avez appelé et vous avez décrié l'état dans lequel se trouvent les routes nationales dans cette partie du pays. Elles sont presque toutes dégradées. Merci beaucoup. L'invité aura le temps de répondre à votre préoccupation, interpellation. Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Tati.
Allez-y, à vous la parole.
Merci beaucoup. Je suis vraiment étonné de toutes les raisons que notre invité donne, alors que la responsabilité totale, je dis bien totale, incombe à l'État. Pourquoi à l'État? Si vous savez bien comment la procédure de l'appel d'offres jusqu'à la passation des marchés est faite, vous allez comprendre qu'il n'y a pas l'objectivité dedans. Je ne voudrais pas qu'il attaque l'aspect technique. il est là, qui vous cite même une seule entreprise dans laquelle il n'y a pas d'ingénieur BTP. Donc, c'est faux. L'aspect technique est totalement exclu de cette partie. Les ingénieurs font leur devis et ces devis demandent des moyens.
Vous êtes ingénieur BTP?
Je suis ingénieur BTP.
On vous écoute.
Nous avons ce qu'on appelle la structure d'une route. Quand on parle de structure d'une route, vous avez les différentes couches à respecter. L'ingénieur peut présenter un devis, je prends ça au hasard, de 50 000 dollars. Le décideur ne donnera pas 50 000 dollars. Dès qu'il y reçoit 30 000 dollars, la couche qui était prévue de 30 cm, la couche de base, 40 cm, il ne fera pas 40 cm.
Non.
Et la responsabilité revient à l'État. Et l'entreprise qui a fait exécuter les travaux, pourquoi elle doit accepter de prendre l'argent alors que cet argent ne contient pas pour les travaux? C'est parce que quand les contrôleurs viendront, ils ont ce que nous appelons l'état de calcul. Ça veut dire, vous trouverez là-dedans tout ce qui a été fait dans les bureaux d'études. Et ceux qui viendront contrôler, viendront toujours de l'État, ils vont comprendre qu'ici la couche de roulement était prévue de 10 cm, mais on a mis 7 cm. Et il va valider ses travaux. Ce n'est pas l'entreprise, c'est celle-là qui contrôle. Il y a une entreprise dont j'étais le nom, entre étrangères. Ça m'a étonné, hier j'étais d'un pays étranger ici, en Afrique. Cette entreprise a exécuté les travaux ici chez nous en 2017. Je viens de leur pays, c'est au Burundi ici. La même entreprise a exécuté la même nature de travaux, mais je vous dis, c'est le jour et la nuit. Et quand il parle de la population, non.
Parce que là-bas, ils sont trop regardants, ils sont rigoureux dans les contrôles.
Et ce qui contrôle, c'est l'État qui contrôle. Ce n'est pas l'entreprise, ce n'est pas l'ingénieur, c'est l'État qui contrôle.
D'accord.
Et même quand vous parlez de la population, pour moi, elle est innocente. Pourquoi? Même dans nos villages, vous croyez qu'il faut passer par les bancs de l'école pour apprendre à une maman de ne pas jeter les résidus de Pondou sur la chaussée?
Pas du tout.
Elles savent ça, parce qu'il faut dire qu'à Bongandanga, ils n'ont pas la culture. C'est faux, c'est faux. À Kinshasa, ici, nous avons des publicités qui passent à la télévision, où on montre qu'on ne peut pas jeter l'eau quand on vient de préparer les Thompson, on ne peut pas jeter l'eau sur la chaussée. On n'a pas besoin d'étudier sur ça. Et quand la population jette l'eau sur la chaussée, ou les immondices, qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit sanctionner. Mais c'est au vu et aussi de l'autorité. La responsabilité revient à l'État. Nous avons un État incapable. Ça, je l'ai dit. Du point de vue de contrôle et application des lois. Il est là l'invité qui s'engage, qui cite une, j'ai dit bien au début, une seule entreprise, parce que je suis ingénieur, dans laquelle on nous demande d'exécuter ce qu'on appelle le chauffage d'assainissement, le design de canalisation, et que l'ingénieur est incapable de respecter les dimensions. Et quand nous dimensionnons les entreprises, c'est-à-dire, nous tenons compte des climats, d'ailleurs, nous avons des marques de sécurité dedans, dans les calculs. Un appel d'offres, des travaux qui doivent être exécutés à Kalima, chez moi, au Maniema. Mais nous savons à Kalima, il y a quel climat. Et dans les calculs, nous savons qu'à Kalima, un sac de climat coûte 45 dollars. Et quand on va lancer l'appel d'offres, on ne vous dira pas de mettre un sac de climat au prix de 10 dollars de Kinshasa. On va vous dire de mettre le climat au prix de 45 dollars à Kalima là-bas. Donc, quand il dit qu'il parle d'entreprise, je suis totalement en opposition avec lui. Tout est tombé à l'État. Et les gens qu'on va envoyer pour contrôler, ils seront mouillés, noyés dedans. Et même la procédure pour le passage des marchés, il n'y a pas un choix objectif. Conséquence, nous n'avons pas d'ouvrage. Voilà ma contribution de ce jour.
Merci beaucoup, ingénieur Gaston. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa. C'est une contribution très intéressante. Monsieur Apollinaire Kitenge, comment répondez-vous à nos deux derniers auditeurs, hein? Il y a un laissé-aller de la part de l'État, d'après ingénieur Gaston qui intervient de Kinshasa.
Oui, merci beaucoup Tati. J'espère que le premier intervenant n'a pas posé une question, il a fait juste un constat,
oui,
qui pratiquement est déploré par tout le monde. Hein. Pour mon ami, mon compatriote Gaston, bon, je pourrais peut-être demander de ne pas faire l'amalgame, hein, parce que moi je n'ai pas dit que les entreprises, il n'y a pas de technicité dans les entreprises. J'ai bien parlé qu'il y a certaines entreprises où le chef d'entreprise, ce sont des commerçants qui ont besoin de bénéfices.
Oui.
Vous voyez? Je crois que quand j'ai parlé de la qualité de route, j'ai bien spécifié, comme lui venait de le dire, en disant qu'il faut tenir compte des couches de roulement, des couches de base, mais j'ai parlé en termes de prix. Voyez-vous? Quand on vous fait $1 million par kilomètre, ce n'est pas la même chose avec une route en terre ou bien avec une route
en béton.
Oui, ce n'est pas la même chose.
Non.
Peut-être c'est là où il n'a pas bien compris. Je crois que nous parlons avec lui le même langage, mais à des différences.
En des termes différents.
À des termes différents, oui. Alors, voyez-vous, bon, il n'est pas de Kalima chez lui, là, à Kalima. Bon, je doute fort qu'il y a des entreprises, là, à Kalima, qui sont attitrées de faire les travaux de route. Ce sont les entreprises qui sont ici, qu'on envoie là-bas. Là-bas, vous trouvez, ce sont des gens qui ont, certains ingénieurs qui ont fait le, comme des arpenteurs, qui deviennent comme des entrepreneurs là-bas.
Mmh.
Où, des fois, les travaux ne sont pas suivis. Parce que certains qu'on peut envoyer suivre les contrôles de travaux là-bas, ils ont même des difficultés d'accéder à certains territoires. Dis-moi, lui, il est des territoires du Maniema, s'il peut quitter Kindu, Kailo, jusqu'à Olindi, jusqu'à arriver à Puni. Les routes sont à quel état là-bas? Il peut me dire qu'il y a même un mètre de kilomètres de routes asphaltées là-bas? Pas du tout. Quand j'ai parlé de la population, les responsabilités, comme on dit, sont partagées. Et à l'État et à la population. Je n'ai pas à dire que mes compatriotes qui sont à l'intérieur du pays ne sont pas des personnes qui réfléchissent, pas du tout.